Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour notre revue de 7 jours d'événements avec bien sûr la rédaction. Je vous rappelle que vous pouvez aussi écouter cette émission, la podcaster comme on dit, sur le site de la radio RFI.fr. C'est un historien qui va nous accompagner dans notre voyage, dans l'espace et le temps, et pas n'importe lequel. Nous sommes en effet en compagnie de Jean-Noël Jeannonnet. Il vient d'écrire « Le moment Macron » aux éditions du Seuil. Cette édition d'une semaine d'actualité va donc parler histoire ce samedi 11 novembre, jour de la commémoration de l'armistice qui a mis fin, on le sait, à la Première Guerre mondiale. Bonjour Jean-Noël Jeannonnet.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro, c'est toujours un plaisir de vous avoir à ce micro dans le magazine Idée ou une semaine d'actualité.
Plaisir très partagé.
Et je rappelle que vous êtes historien, ancien président de Radio France, de RFI aussi, de la Bibliothèque Nationale de France. Vous êtes un homme de radio. Concordance des temps, la célèbre émission d'histoire sur France Culture, le samedi également. Et nous sommes d'ailleurs le 11 novembre, jour historique s'il en est.
Oui,
d'histoire, chargé d'histoire.
Essentiel, oui, bien sûr, un moment qui vient, d'une certaine façon, couper notre histoire contemporaine, une sorte de rupture à la fois concrète, diplomatique, affective, dans l'ordre des réalités, dans l'ordre des représentations.
Alors cette émission va être placée sous le signe des anniversaires. Il y a par exemple les 1 an de pouvoir de Donald Trump, par exemple, dans le monde, 6 mois pour Emmanuel Macron. Il y a aussi les 47 ans de la mort du général de Gaulle. De façon générale, vous avez réfléchi sur cette question, Jean-Noël Jeannonnet. Est-ce qu'on ne commémore pas trop, en fait? Il y a même des anniversaires symboliques qui émergent, par exemple les 1 an de pouvoir de Donald Trump ou les 6 mois de Emmanuel Macron.
Il y a deux choses différentes. Il y a l'anniversaire d'un moment essentiel. Vous évoquez le 11 novembre, et puis l'idée que, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de 6 mois, on doit faire le bilan d'une activité, d'une influence, d'une présence au pouvoir de tel ou tel. Cela ne me choque pas, mais ce n'est pas la même catégorie. Et au fond, c'est une occasion aussi chaque fois de rappeler qu'il est intéressant de s'occuper de la surface des choses et même de ce qui est apparent. C'est le métier que j'aime, de journaliste, je le suis d'une certaine façon indirectement, mais aussi, évidemment, une réaction d'historien qui pense que le moyen terme et le long terme, c'est très important. Et dans le cas d'Emmanuel Macron, dans le cas de Trump aussi, peut-être encore plus dans le cas de notre président, il est évidemment prématuré de faire un bilan des choses. C'est pourquoi ce livre...
Alors justement, Jean-Noël Jeannonnet, l'historien du présent que je suis, en quelque sorte, puisque je suis journaliste...
Je dis ça en bonne part, vous le comprenez bien, pas seulement par courtoisie.
A devant les yeux ce livre, le dernier en date, Le moment Macron, où vous avez voulu vous intéresser à l'intérêt, enfin notamment, qu'a le président de la République française pour l'histoire, en fait, et sa façon de se replacer dans l'histoire.
Oui, le sous-titre est... Le président et l'histoire, et non pas le président dans l'histoire. Pour la raison que je viens de vous dire, c'est évidemment tout à fait prématuré. Mais il se trouve que, pour la première fois depuis longtemps, nous avons un chef de l'État qui a une vraie culture historique. Ouais. Par le détour d'ailleurs souvent de la philosophie. Une vraie culture historique qui s'intéresse à l'histoire, ce qui amène en effet à une triple curiosité. La curiosité d'abord de ce qu'il nous dit sur l'histoire, la vision qu'il a du passé, et c'est toujours très important parce qu'elle guide certains comportements pour n'importe qui, pour un chef de l'État comme pour nous-mêmes. Et puis aussi les précédents, car vos confrères et les historiens, pendant la campagne électorale et après le succès très inattendu à l'origine d'Emmanuel Macron, ont évidemment été portés à dire « ça évoque ceci, ça évoque cela, ça évoque telle ou telle période ». Et j'ai joué à ce jeu intellectuel, je crois que c'est un peu plus qu'un jeu. Et puis enfin, troisième aspect des choses, il nous a dit qu'il voulait... peser sur l'histoire, et en particulier peser sur la mémoire, réconcilier les mémoires. Et c'est un homme qui a visiblement un grand sens du symbolique. La symbolique du pouvoir, c'est très important. Il n'y a pas de symbolique qui ne s'enracine pas dans la longue durée. Voilà à peu près les trois angles, les trois curiosités qui m'ont animé en rédigeant cet ouvrage.
Alors nous allons parler cette fois de l'anniversaire de la Révolution russe. Encore un anniversaire, un vrai, celui-là. La Révolution de 1917, la Révolution d'octobre, dit-on en France, mais plutôt novembre, dit-on à Moscou. Reportage mercredi de notre correspondant Daniel Vallot.
Des chants révolutionnaires, des drapeaux rouges, mais aussi des portraits de Lénine et parfois de Staline. La manifestation s'élance de la place Pouchkine à la place de la Révolution, non loin du Kremlin.
Je suis venu parce que le centenaire de la Révolution d'octobre, c'est un événement grandiose. Moi, je suis devenu communiste à l'époque soviétique, et quand nous avons perdu le pouvoir, eh bien, j'ai continué malgré tout à militer. Parce que le marxisme défend les intérêts des travailleurs, et c'est ça le plus important.
Dans la foule, beaucoup de retraités et de nostalgiques de l'Union soviétique, mais aussi de jeunes étudiants venus célébrer une époque qu'ils n'ont jamais connue, mais qu'ils considèrent comme une référence, un modèle à suivre.
La révolution socialiste est dans nos cœurs. Bien sûr, je regrette qu'on n'en fasse pas plus pour le centenaire d'octobre. Mais aujourd'hui, la bourgeoisie fait beaucoup d'efforts pour nous faire oublier la révolution.
Les communistes russes se disent ulcérés par le manque d'intérêt manifesté par les autorités pour le centenaire de la Révolution. Et ils demandent que la journée du 7 novembre redevienne une journée de fête nationale, comme à l'époque soviétique. Daniel Valo, Moscou, RFI.
Alors, retour en France, maintenant Jean-Noël Jeanneney, avec un anniversaire symbolique cette fois, donc les 6 mois de présidence d'Emmanuel Macron, Valérie Gasse.
Je fais ce que j'ai dit, ces mots, Emmanuel Macron les répète comme un mantra. Et c'est dans la bouche du président de la République élu le 7 mai dernier, l'ultime et inattaquable justification des réformes menées tambour battant depuis 6 mois. Moralisation de la vie publique, réforme du code du travail, de l'impôt sur la fortune, hausse de la CSG, suppression de la taxe d'habitation, diminution par 2 du nombre d'élèves dans les classes de primaire en zone prioritaire. Tout était dans le programme du candidat Macron, comme la réforme de l'apprentissage, de la formation professionnelle, de l'assurance chômage qui vont arriver dans les 6 prochains mois. Depuis son élection, Emmanuel Macron s'applique donc à tenir ses engagements, quitte à être accusé d'être le président des riches lors du débat budgétaire, quitte aussi à devoir assumer d'être taxé d'arrogant à force de donner un caractère jupitérien à sa présidence, tout en se laissant aller parfois à quelques écarts de vocabulaire, bordel et autres fainéants, pas toujours du goût des Français. 6 mois, c'est trop tôt pour juger l'action d'Emmanuel Macron, c'est en tout cas ce que pensent 50% des Français interrogés dans une récente enquête d'opinion. Le chef de l'État espère, lui, voir apparaître les résultats de sa politique d'ici 1 an et demi, 2 ans.
Alors on va évidemment reparler d'Emmanuel Macron dans un instant, Jean-Noël Jeanneney, mais revenons à cet anniversaire de la révolution bolchevique, la révolution russe. Dans la nuit du 6 au 7 novembre 1917, il faut rappeler, les bolcheviques s'emparaient en fait de Saint-Pétersbourg, Petrograd. Ça vous fait penser à un souvenir particulier?
Oui,
de la révolution, vous n'y étiez pas. Mais...
Là, je vous remercie de le signaler à nos auditeurs. On oublie souvent parce que la mémoire attend à comprimer les choses qu'il y a eu une autre révolution avant, une révolution qui a éclaté en février, qui a vu la chute du tsar et qui a donné l'impression aux observateurs, notamment aux observateurs occidentaux, les Français et les Anglais, que la Russie pouvait se diriger vers une sorte de social-démocratie qui aurait été apaisée, qui aurait assuré des réformes progressive et puisque vous évoquez ce souvenir que je peux évoquer, en effet, il faut rappeler que c'est un avocat de grand talent qui s'appelait Kerensky qui a été le chef de ce moment-là. Il est devenu d'ailleurs un peu un symbole aux yeux des anticommunistes puisqu'il est apparu comme celui qui avait impuissant conduit finalement vers une révolution de type bolchevique. Et le souvenir dont il s'agit, c'est une visite que j'ai faite à Kerensky, très vieux monsieur. C'était à New York en 1967, et je l'ai fait parler naturellement de tout cela. Ce qui m'a frappé, c'est la haine vivante qu'il conservait de Lénine, considérant qu'il avait conduit toutes les espérances que lui-même avait incarnées de la pire des façons, et, c'était plus étonnant, l'admiration qu'il avait pour Staline, en dépit de tous les crimes qu'on peut attribuer à celui-ci, car il le voyait sous l'angle du chef de guerre, du très très grand patriote. Et Kerensky, aux États-Unis, à 87 ans, restait un grand patriote. Et il se disait qu'en dépit de ce qu'il avait fallu payer comme tribut à la conduite de la guerre, du côté de l'absence de liberté, malgré tout, Staline était un grand homme. Et je pense qu'il regretterait de considérer qu'aujourd'hui, on peut encore voir embaumer Lénine au Kremlin, mais qu'après peu de temps, on a retiré la momie de Staline.
Ouais. Alors Jean-Noël, revenons à Emmanuel Macron. Quel regard portez-vous, 6 mois après son accession au pouvoir, regard sur Jupiter ?
À Jupiter, on peut évidemment s'attacher à cette formule de différentes façons.
Le président jupitérien ?
Oui, quand il a parlé de Jupiter, c'était surtout pour marquer une verticalité de l'autorité venue d'en haut. Il considère, il en a fait d'ailleurs la doctrine dans ses écrits sur l'histoire, que la Ve République, et plus largement la France, exige une incarnation du pouvoir et que plusieurs de ses prédécesseurs, je lui laisse la responsabilité de cette affirmation, mais on peut peut-être la rejoindre, plusieurs de ses prédécesseurs ont manqué à cette capacité d'incarnation. Ricoeur, dans ce qui est son philosophe qui a été son maître,
oui, dont on parlera bientôt dans l'idée d'ailleurs,
insiste là-dessus. Et au fond, c'est une réflexion à faire sur la verticalité du pouvoir à une époque où l'horizontalité s'impose bien davantage. À cause de quoi ? À cause d'Internet. La démocratie est forcément marquée par ces nouvelles technologies. Son idée est qu'il faut d'autant plus une autorité. Et par conséquent, c'est une manière de réfléchir à l'équilibre toujours nécessaire entre l'efficacité du pouvoir et les libertés démocratiques, publiques, liberté d'expression et les contre-pouvoirs. On est là au cœur d'une question démocratique éternelle. La réponse de Macron, pour l'instant, me convient assez bien. Parce que j'ajoute...
Pour l'instant.
Oui, ben bien sûr, attendons. Je suis à la fois... J'ai de la sympathie, de la curiosité et beaucoup de vigilance.
D'ailleurs, vous dites dans le livre que vous êtes prêt à écrire un autre livre, une autre version du livre, dans 5 ans,
hein, oui, pour faire le livre. Avec des commentaires en italique.
Une semaine d'actualité.
Jean-Noël, Jean-Noël, continuons notre voyage dans le monde avec cette fois les importants changements qui ont eu lieu ces derniers temps en Arabie Saoudite. Je veux dire changements au sein du régime, une révolution de palais en l'occurrence, Muriel Paradon, mardi.
Mohamed Ben Salman, surnommé MBS, est l'homme fort d'Arabie Saoudite. C'est lui que le roi Salman, son père, a choisi en juin dernier pour lui succéder après son décès. Mais le prince héritier est dans les arcanes du pouvoir depuis plusieurs années et il impose sa volonté de changement. Sur le plan économique, il a lancé un vaste programme de développement destiné à diversifier l'économie saoudienne qui repose presque uniquement sur le pétrole. Sur le plan sociétal, Mohamed Ben Salman, âgé de 32 ans, prône la modernisation et la modernisation dans un royaume extrêmement conservateur. Riyad a annoncé récemment que les femmes auront bientôt le droit de conduire. Mais le prince héritier ne tolère apparemment aucune opposition. De nombreux religieux et membres de la société civile ont été arrêtés en septembre. Mohamed Ben Salman est aussi l'artisan du durcissement de la politique régionale saoudienne. Il commande la coalition intervenant dans la guerre meurtrière au Yémen, combattant des rebelles chiites soupçonnés d'être liés à l'Iran. C'est aussi lui qui serait derrière l'isolement du Qatar, accusé de soutenir le terrorisme et d'être trop conciliant avec l'Iran, encore une fois, l'ennemi absolu de l'Arabie Saoudite.
À noter aussi la fin du blocus imposé au Yémen par la coalition conduite par l'Arabie Saoudite. C'est ce que demande en tout cas le Conseil de sécurité de l'ONU et la prise de contrôle par le régime syrien de la dernière ville syrienne contrôlée par le groupe djihadiste État islamique, mais reprise en partie hier par Daesh. Jean-Noël, le grand titre, un des grands titres de l'actualité cette semaine, c'est vraiment toute la semaine, puisque les informations ont été publiées toute la semaine, c'est ce qu'on a appelé les Paradise Papers, les documents du paradis en quelque sorte, cette vaste et passionnante enquête d'un consortium international de journalistes et de 95 médias. On se souvient des Panama Papers il y a quelques mois. Cette fois, cette enquête montre que quelques 350 milliards d'euros sont soustraits chaque année à la fiscalité des États, dont 20 milliards pour la France. Est-ce que vous, l'historien, est intéressé par les choses de la presse, s'intéresse à ce qui se passe là en ce moment, cette nouvelle façon d'enquêter à l'échelle internationale?
Comment ne pas s'y intéresser quand on est non seulement un citoyen, mais un historien? En termes généraux, cela pose la grande question du secret et de la transparence dans n'importe quelle société. La transparence absolue n'étant pas d'ailleurs forcément un bien, donc il revient dans un système démocratique de savoir dans quel champ on considère que les choses doivent être le moins cachées possible. Ça, c'est une observation générale. À propos de ce cas particulier, je trouve qu'on n'a pas assez insisté sur la différence qui existe entre la fraude fiscale en tant que telle, violer les réglementations nationales ou internationales, et l'utilisation optimale des systèmes déglingués, de la finance internationale qui permettent, en respectant les règles, d'échapper à...
C'est ça. La légalité et la morale, en fait.
Oui, c'est complètement différent. Mais dans le cas de la morale, est-ce qu'il faut demander aux gens en soi d'être moraux? Oui, ce serait mieux, bien sûr. Mais toute puissance financière a toujours un escadron d'avocats fiscalistes qui trouvera les meilleurs moyens. Dans le cas de l'Europe, comme Européen passionné, étant convaincu que c'est une des grandes choses de l'époque actuelle et pour notre génération et pour les autres, je ne peux pas ne pas être chagrin du fait que cette Europe est incapable encore, au moins déjà à l'intérieur d'elle-même, de faire une harmonisation fiscale. Les membres de l'Union européenne peuvent eux-mêmes offrir des systèmes avantageux à des citoyens d'un autre pays. Et je ne vois pas qu'on puisse continuer comme cela, car c'est insupportable. Cela exigera probablement que dans ces domaines, on passe à Bruxelles de la règle de l'unanimité à la règle de la majorité. Car sinon, on aura toujours la Grande-Bretagne avec l'île de Man ou Malte et Luxembourg. Et c'est vraiment insupportable. C'est à cela, à mon avis, qu'il ne faut pas s'habituer.
Ouais, en tout cas, ces affaires représentent l'arbre qui cache la forêt paradisiaque où l'optimisation fiscale est la clé pour accéder au paradis, écrit un de nos auditeurs, Mokhtar, qui nous écrit de Richard Toll, au nord du Sénégal. On va terminer cette première partie avec Emmanuel Macron, Jean-Noël Jeannonet, qui est au cœur de votre livre, donc Le Moment Macron, où vous écrivez « La gauche et la droite, à vue humaine, sont insubmersibles ». Vous doutez, en fait, du positionnement centriste d'Emmanuel Macron.
Je ne doute pas de son positionnement.
De la réussite, alors, donc, de sa politique dans un tel positionnement.
Je ne doute pas même de sa possible fécondité d'un gouvernement décent pendant un certain temps. Ce dont je doute, c'est de la pérennité d'un système qui prétendrait très durablement conduire la politique de la nation, non pas comme centriste, mais comme un gouvernement central, un gouvernement des centres. Il y a eu des précédents. C'est là que, comme je le fais dans mon livre, il peut être intéressant de regarder les autres cas où on a, de la sorte, essayé de gouverner au centre. Et chaque fois...
Le Viscard, par exemple.
En 1958, avec De Gaulle, arrivant, ou un personnage plus oublié que j'ai eu plaisir à faire émerger, Valdez-Crousseau, au moment après l'affaire Dreyfus, qui avait divisé la France en deux, a fait un gouvernement en 1899, jusqu'en 1902, un gouvernement qui allait d'un socialiste à un général qui avait brisé la commune et qui avait fusillé de façon presque sadique les communards. Et ça a duré 3 ans et ça a abouti à des réformes intéressantes, importantes, comme la loi sur les associations de 1901. Et puis ensuite, il y a eu des élections et on est revenu à des élections bloc contre bloc. Je pense que la vie politique depuis la Révolution française en France, et ça s'est étendu aux autres démocraties, notamment européennes, mais pas seulement, est forcément organisée de façon en gros binaire, gauche et droite. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des thèmes baladeurs qui vont d'un côté à l'autre. Voyez la régionalisation, voyez l'écologie, par exemple. Ce qui ne veut pas dire que ces groupes, ces familles ne sont pas divisées à l'intérieur d'elles-mêmes. Certes, mais cette opposition-là, je crois, est vouée à être très, très durable. Et peut-être, si vous me laissez évoquer un instant, le général de Gaulle, il est intéressant de noter qu'en 58, il a voulu faire un gouvernement des centres. Il a fait d'ailleurs un gouvernement très proche de celui que Emmanuel Macron nous a offert récemment. Je veux dire des techniciens d'un côté, et puis 3 socialistes à gauche, 3 modérés à droite, et au milieu, 3 démocrates chrétiens. Et ça a duré un bon moment. Et puis, en 1965, il s'est dit que pour pérenniser l'autorité pré-jupitérienne du président de la République, il fallait le faire élire, comme vous savez, au suffrage universel. À partir de 65, c'est ce qui s'est passé. Et il a eu la surprise, peut-être n'avait-il pas mesuré, de voir que ces systèmes-là conduisaient forcément, à cause de l'élection à 2 tours, à une opposition binaire. Et du même coup, il a été, au moins en politique intérieure, je parle à RFI, et je ne qualifierai pas de la sorte sa politique étrangère, mais au moins en politique intérieure, il a été, d'une certaine façon, il a été rejeté plutôt vers la droite, dès lors que c'est François Mitterrand qui a eu 45% au premier tour. Et cette évolution a pu donner le sentiment que jusqu'à tout récemment, les institutions étaient absolument incapables de permettre ce gouvernement descendre. On nous avait dit que ces institutions ne permettraient pas grand-chose. Elles devraient mourir.
Elles se sont adaptées, en tout cas.
On pourrait dire ça. En tout cas, qu'elles étaient incapables d'aboutir à ça, la preuve contraire est faite.
Jean-Noël Jeannonet, nous allons marquer une pause, écouter quelques nouvelles du monde, de la France aussi sans doute, et on se retrouve dans 3 minutes. A tout de suite. Merci pour toutes ces informations. Retour maintenant à notre voyage dans le temps. 7 jours, ce n'est pas long par rapport à vous, Jean-Noël Jeannonnet, qui aimait le temps long. Nous sommes en effet en compagnie de Jean-Noël Jeannonnet, historien, auteur du Moment Macron, publié au Seuil. Dans un instant, nous prendrons la direction de l'Afrique. Bien entendu, rendez-vous également avec vos messages.
Une semaine d'actualité.
Mais pour le moment, Jean-Noël Jeannonnet, arrêtons-nous donc en France. Nicolas Hulot a estimé mardi que la France ne pourrait pas ramener la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% en 2025 finalement. Comme prévu dans la loi de transition énergétique, il évoque maintenant la nécessité de fixer une date réaliste. Anthony Latier.
En fermant rapidement de nombreux réacteurs nucléaires, la France serait contrainte de construire de nouvelles centrales à charbon très polluante. Voilà l'argument du gouvernement pour justifier son report. Une partie de l'opposition regrette ce recul d'Emmanuel Macron sur l'une de ses promesses de campagne, le député socialiste Stéphane Le Foll.
Faut surtout pas renoncer, parce qu'à partir du moment où on renonce, c'est sûr qu'on risque pas d'avancer dans cette stratégie. Donc il faut surtout rester déterminé.
Embarras dans la majorité présidentielle, le député En Marche Mathieu Orphelin, proche du ministre de la Transition écologique, préfère insister sur l'importance de fixer un calendrier réaliste de fermeture des réacteurs nucléaires.
Le plus important, c'est pas de savoir si c'est 2025 ou 2026 ou 2027. Le plus important, c'est d'engager ce mouvement irréversible, que enfin on profite des prochains mois pour dire voilà la trajectoire de fermeture des centrales qu'on va adopter en France et qu'on essaye de viser le plus proche possible de cet engagement pris.
Le ministre Nicolas Hulot promet lui qu'un plan de fermeture de plusieurs réacteurs sera fixé d'ici un an.
Sept jours en France.
Mercredi, Emmanuel Macron, on reparle d'Emmanuel Macron, Jean-Noël Jeannonnet, qui est au cœur de l'émission, a inauguré le nouvel établissement du Louvre à Abu Dhabi, un superbe édifice, œuvre de Jean Nouvel, qui regroupe des œuvres provenant de 13 musées français. L'occasion pour le président français de dire notamment ceci.
Ce Louvre de la lumière et du désert, c'est ce message envoyé contre tous les obscurantismes. C'est ce message envoyé et ce courage que vous avez voulu, celui de remettre votre religion dans ce qu'il a toujours fait et que vous venez de rappeler avec beaucoup de courage, ce message d'un syncrétisme profond. On ne peut pas aimer la religion qui est la vôtre ici si on ne rappelle pas que dans cette région, tous les grands monothéismes sont nés et que l'islam est né de ce palimpseste de culture et de civilisation qui font que de manière indétricotable, irréductible, nos religions sont liées, nos civilisations sont liées, et que ceux qui veulent faire croire, où que ce soit dans le monde, que l'islam se construit en détruisant les autres monothéismes sont des menteurs et vous trahissent.
Alors cela ne vous a pas échappé, Jean-Noël Jeannonnet, deux prix littéraires, le Goncourt et le Renaudot, ont récompensé des écrivains qui ont puisé dans l'histoire pour écrire leurs ouvrages. L'ordre du jour d'Éric Vuillard sur le soutien d'industriels allemands qui ont aidé les nazis à parvenir au pouvoir en 1933, et sur l'Anschluss aussi, l'annexion de l'Autriche 5 ans plus tard, et Olivier Guèze pour La disparition de Joseph Mengele, publié chez Grasset, Catherine Fruchon-Toussaint.
Coïncidence ou résurgence des fantômes de l'histoire, toujours est-il que les deux jurys littéraires ont primé deux livres ancrés avant et après la Seconde Guerre mondiale. L'ordre du jour, pour commencer, récompensé par le Goncourt pour un récit bref et glaçant où est racontée l'arrivée au pouvoir de Hitler en 1933 grâce au soutien financier d'hommes d'affaires allemands qui font passer leurs intérêts avant tout. Éric Vuillard.
C'est un livre, disons, sur la compromission, sur les compromis, la façon dont on glisse petit à petit parfois.
Oui, vous avez l'impression qu'il y a un écho contemporain ?
Je crois qu'il y en a toujours, oui, ouais. Sur ce genre de choses.
De son côté, Olivier Guèze, lauréat du Renaudot, retrace les dernières années du bourreau nazi Joseph Mengele, qui en 1949 a échappé à ses juges pour se cacher en Amérique du Sud. Un livre, comme le Goncourt, hanté par le mal.
Olivier Guez.
Ce palmarès tourne autour, et je pense que c'est bien qu'on s'en souvienne aujourd'hui. Mais pas seulement qu'on se souvienne, qu'on prenne conscience aussi de la facilité avec laquelle on peut faire le mal. On peut basculer dans le mal.
Inspiré de faits historiques, le Goncourt et le Renaudot cette année sont des rappels saisissants de notre passé et peut-être, pour les jurés, une mise en garde pour notre présent.
Éric Vullard sera l'invité de Littérature sans frontières demain avec, bien sûr, Catherine Fruchon-Toussaint. Alors là, c'est un sujet fait pour vous, Jean-Noël Jeannonnet. Quand des écrivains, notamment Éric Vullard, font des recherches dans les archives, comme le font les historiens, pour extraire la substantifique moelle et écrire leur roman. C'était le cas notamment d'Éric Vullard pour le 14 juillet, son livre précédent.
Je n'ai lu que le premier, je n'ai pas lu le second. J'ai lu le livre de Vullard, qui est un très beau livre et qui me paraît, si c'était nécessaire, illustrer parfaitement le commerce précieux que peut entretenir l'histoire avec la littérature. Vous savez, une des raisons pour lesquelles j'aime tant l'histoire, qui est plus une discipline qu'une science à mes yeux, c'est parce que elle est ouverte, elle est offerte à toutes sortes d'écrivains, à toutes sortes d'interventions possibles. Il y a évidemment l'histoire universitaire avec des notes en bas de page, je n'en dirais pas du mal. Mais il y a la possibilité pour chacun d'aller dans ce magasin de faits antérieurs, d'intrigues, d'événements, si colorés, la possibilité d'aller chercher son miel pour en faire le meilleur. La bande dessinée historique est en train de trouver une place très importante. Et le roman historique, alors là, il a des précédents extrêmement glorieux, que ce soit Alexandre Dumas, ou que ce soit Victor Hugo, ou que ce soit Anatole France. Et vous observerez que dans les récits que beaucoup d'historiens éminents donnent de la naissance de leur vocation, très souvent, on trouve un roman historique. Et je considère par conséquent que cet hommage de la littérature à Clio, notre muse, cette année, avec ces deux prix, est très bienvenu. Je le reçois avec une grande satisfaction.
Alors, si nous parlions du Tigre maintenant, Jean-Noël Jeannonnet.
Volontiers.
On avait fait une émission l'année dernière, au musée Clémenceau, la maison de Clémenceau, dans le 16e arrondissement. Vous avez écrit donc dernière nouvelle du Tigre. Et là, il y a un anniversaire, novembre 2017, c'est le centenaire de l'accession au pouvoir de Clémenceau comme président du Conseil, je crois que c'était la deuxième fois, mais là c'est un cabinet de guerre, un conseil de guerre.
Oui, oui, Poincaré,
1917.
Poincaré, président de la République, qui ne l'aimait pas, se résout dans une situation très incertaine, de doute collectif, d'incertitude militaire, à faire appel à celui qui a figure de personnage absolument résolu et dont la détermination se fonde sur tout un passé de duelliste, de patriote. Et effectivement, il est au gouvernement de novembre 17 jusqu'à la fin de 1919, début 1920. Et il sera le grand négociateur après la paix. Mais ce qui nous concerne cette année, c'est son rôle de chef de guerre, le père la victoire, comme on dira. Et je comprends que les pouvoirs publics, Emmanuel Macron en particulier, souhaitent donner à cet anniversaire une force spécifique.
Emmanuel Macron qui est aujourd'hui, d'ailleurs, chez Clémenceau.
Oui, oui, il a bien voulu venir au musée Clémenceau, que je me trouve présidé, deux générations après mon grand-père, qui était Gilles Jeannet, qui était un collaborateur de Clémenceau, qui avait fondé ce musée Clémenceau, présidé donc cet ensemble, ce musée du 8 rue Franklin, qui mérite vraiment la visite.
8 rue
Franklin, vous le confirmez, nous avions été ensemble effectivement pour une émission, et le président Macron veut bien venir inaugurer une nouvelle galerie historique, très moderne par sa scénographie et son ambition, que nous avons mise en place, et naturellement je m'en réjouis. Ensuite il ira, suivant la tradition, devant la statue de Clémenceau aux Champs-Élysées, déposer une gerbe, comme le font tous les présidents de la République depuis Albert Lebrun.
Alors, sur le plan éditorial, il y a aussi la publication d'une nouvelle revue qui s'appelle L'année Clémenceau, publiée au CNRS Éditions.
Excellentes éditions, Grégoire Kaufmann, Blandine Janton, qui travaillent magnifiquement. Oui, j'ai souhaité, avec toute une pléiade de jeunes spécialistes de Clémenceau, il y en a beaucoup qui émergent.
Et d'ailleurs, c'est bon signe que de jeunes chercheurs s'intéressent à Clémenceau.
J'ai souhaité qu'il y ait une publication annuelle qui fasse le point sur les études clémencistes. Il s'agit de Sylvie Brodziak, de Mathieu Séguéla et de Samuel Tomei. Désormais, vous aurez en effet en librairie une livraison de ce type chaque année. De même qu'il faut saluer la parution chez Bouquin d'un dictionnaire Clémenceau dont se sont occupés Sylvie Brodziak et Samuel Tomei, vous savez, dans la collection Bouquin, qui je crois intéressera beaucoup, car il montre comme cette revue la grande diversité des facettes d'un personnage qu'on ne peut réduire ni au ministre de l'Intérieur rigoureux de 1906, ni au patriote père la victoire, mais qui avait déployer des talents dans toutes sortes de directions, et en particulier en direction des classes les plus défavorisées et à l'égard de la culture générale de son temps, dont il était prodigieusement friand, par Claude Monet et par d'autres.
Alors il y a aussi le personnage Clémenceau, et je recommande vraiment un livre dont vous avez signé la préface. Clémenceau parle encore, au CNRS édition, un livre de poche. J'ai passé l'été avec ce livre.
Je vous félicite pour votre genre de vacances.
Écrit par Pierre Martet, qui était son secrétaire, il me semble.
Jean Martet,
oui, qui était son secrétaire. Et là, Clémenceau nous parle encore. Il a une façon de s'exprimer qui est incroyablement moderne.
Oui,
sans parler du fond, évidemment.
Le secrétaire avait vraiment un talent, je crois, pour capter la conversation. Et on voit la diversité d'un personnage, son humour, sa vacherie aussi, oui. Sa lucidité, parfois ses erreurs imposées par des souvenirs qui ne sont pas toujours très fidèles, parce qu'ils sont reconstruits au prisme de sa culture. Mais enfin, c'est un personnage incroyablement vivant, c'est pourquoi nous avons choisi ce titre, Clémenceau parle encore. Et oui, il parle encore.
Et donc, il faut s'intéresser à Clémenceau.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Continuez bien sûr à nous écrire à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Également, je salue aujourd'hui Ulrich qui nous écoute à Yaoundé, Alpha Oumar qui est un fidèle auditeur à Conakry. Bonjour également à Goni qui lui nous écoute à Abéché au Tchad et à Christine à Cotonou.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons partir pour l'Afrique maintenant, Jean-Noël Jeannedet, car nous sommes sur RFI, une maison que vous connaissez bien.
Oui, je garde un souvenir très cher du moment où j'avais pendant plusieurs années présidé RFI, à une époque où c'était une filiale de Radio France, avant une coupure qu'historiquement on peut juger de diverses façons.
Bien, alors nous allons pour l'instant au Togo, avec la poursuite des manifestations contre le régime du président Faure en Niassimbé cette semaine. Ça fait des semaines qu'il y a de grosses manifestations dans ce pays. Mardi, par exemple, reportage de notre correspondant Peter Sassou Dogbé.
Sur un air de carnaval, plusieurs lomés ont défilé au son de castagnettes, de tam-tam et de chansons pas toujours ordinaires, en somme, des chansons d'occasions exceptionnelles. Dans la foule en liesse, on aperçoit des pancartes hostiles à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest comme « La CEDEAO est malade », « Marcel de Souza, le Togo n'est pas différent de la Gambie, pourquoi ce silence complice de la CEDEAO, etc. » On chante, on danse sur des pas de danse guerrière pour traverser la ville jusqu'à la plage où le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre s'adresse à eux. Il donne les précisions sur le dialogue.
Nous sommes favorables, ouverts aux discussions. Dès le début des manifestations, nous l'avons dit. Mais il ne faut pas se leurrer. Nous ne sommes pas pour des discussions qui vont permettre le maintien du statu quo. Si c'est vers cette direction qu'on nous oriente, bon, personne ne me fera dévier de mon objectif. C'est le départ du chef de l'État. Je le dirai partout, dialogue ou pas dialogue, discussion ou pas discussion. Je le dirai. Il n'est pas question d'essayer de dire autre chose que ce que disent les populations togolaises.
La réunion publique s'achève. Les manifestants repartent en groupe pour éviter les représailles sur les routes et attendent le nouveau jour pour de nouvelles manifestations.
Et l'actualité africaine cette semaine, c'est au Cameroun, l'imposition d'un couvre-feu nocturne à Bamenda, l'un des épicentres de la crise anglophone dans le nord-ouest du pays. C'est également la suspension par la Cour suprême du processus électoral au Liberia avant le second tour de l'élection présidentielle à suivre évidemment dans nos journaux. Direction le Mali maintenant, pour revenir cette fois sur une controverse à propos de la mort de soldats maliens lors d'une intervention française en octobre dernier dans un camp d'entraînement terroriste, selon Paris, près d'Abaïbara, dans le nord-est du pays. Ces soldats ont été tués lors d'un raid français. Marie-Pierre Olfan, mardi.
C'est une controverse qui enfle depuis plusieurs jours, notamment depuis la diffusion de photos de présumés soldats maliens décédés en appui d'un communiqué des terroristes qui annonçait la mort dans le raid français des 11 militaires qu'ils retenaient en otage. Depuis, l'armée malienne a procédé à des recoupements et assure que 6 de ces soldats sont effectivement décédés au cours de l'opération française. Une tragédie, c'est le mot employé par le ministère malien de la Défense. Seulement, la thèse d'une bavure n'est pas partagée par la force Barkhane. Dans un communiqué diffusé hier, l'état-major français des armées réaffirme que la cible était un camp d'entraînement terroriste sans erreur possible. Le texte précise aussi que le travail de renseignement n'a à aucun moment permis de détecter la présence sur le site de militaires maliens. Si la mort de ces soldats est confirmée, elle soulève toujours plusieurs questions. Étaient-ils encore otages ou certains avaient-ils rallié la cause terroriste? Ont-ils été tués par la force Barkhane, par les forces spéciales françaises ou par le groupe de Yad Agrali pour nuire à l'armée française? Des questions que n'ont pas encore permis d'éclaircir les deux rencontres de très haut niveau qui ont eu lieu sur le sujet entre autorités françaises et maliennes à Bamako ces derniers jours.
Sept jours en Afrique.
Alors revenons à l'histoire maintenant, Jean-Noël Jeannonnet, pour parler de l'ouverture des cartons des archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence et la mise au jour de cartes coloniales, de très belles cartes coloniales. Reportage de Léa Lisa Westerhoff.
Sortie d'une grande pochette en carton, une carte de 1911.
Alors c'est une carte ethnographique et administrative du Haut-Sénégal et Niger et territoire militaire.
Béatrice Olive, conservateur du patrimoine.
Donc on a l'actuel Burkina Faso à une époque où ce territoire était encore sous administration militaire.
Car ce n'est qu'en 1919 que ce territoire deviendra une colonie et la Haute-Volta. Des cartes comme celle-ci, il y en a des dizaines. Certaines tracées à la main recensent des routes, d'autres les ethnies. Une autre fin 19e cartographie les données d'une exploration jusqu'en Côte d'Ivoire. Pour Francis Simonis, professeur d'histoire à l'université d'Aix-en-Provence, ces documents racontent la mise en place des colonies.
Suivant l'évolution des cartes, on suit l'évolution de l'emprise coloniale sur les territoires. On voit bien qu'au départ, il s'agit de cartographier les étapes pour se rendre d'un lieu à l'autre et les populations. Ensuite, on va faire des cartes plus économiques. Faire des cartes de l'implantation militaire.
Collecter des infos, recenser, cartographier. Pour le professeur d'histoire, ce fonds cartographique permet aussi de déconstruire l'idée que les frontières ont été tracées de façon aléatoire en Afrique. Francis Simonis.
C'est un mythe de dire que les colonisateurs ont tracé des frontières au hasard. Au contraire, le but c'était d'administrer à moindre coût en évitant les révoltes. Et pour ça, il fallait essayer d'avoir une sorte d'homogénéité des populations.
Protégées de la lumière, plus de 16 000 cartes attendent dans de grands tiroirs d'être consultées. Plusieurs centaines concernent le continent africain et sont accessibles au public sur simple demande.
Suite d'une semaine d'actualité, alors là c'est un sujet fait spécialement pour vous, Jean-Noël Jeannonnet, où l'on découvre qu'il y a encore beaucoup de documents à décrypter pour comprendre le passé.
Oui,
en l'occurrence.
Oui, la géographie est une discipline sœur de la nôtre depuis toujours et légitimement. Et cette exhumation des cartes permet de vérifier une chose, c'est que la cartographie a toujours été incroyablement vivante en France et que d'autre part, faire des cartes, ça n'est pas quelque chose d'objectif qui se traduit immédiatement sur le papier. Il y a toujours de la subjectivité dans le choix des cartes. Regardez la surprise que nous avons souvent lorsque nous découvrons des planisphères où le centre n'est plus la France, mais par exemple Pékin, Delhi ou éventuellement l'Afrique du Sud. Les choses changent à cet égard. La cartographie a accompagné les guerres, les mouvements de colonisation, les générosités aussi d'expansion éventuelle de la santé ou du soutien aux uns et aux autres. C'est une grande école de géographie que nous avons connue en France, avec des gens comme Élisée Reclus ou avec Vidal de Lablache. Oui, songez simplement, pour ma génération et pour beaucoup de générations désormais un peu mûres, y compris en Afrique, le souvenir des cartes de Vidal de Lablache qui étaient sur les murs de nos salles de classe est resté extrêmement fort, resté extrêmement prégnant et a contribué à nous donner une certaine idée du monde. Il faut toujours évidemment prendre du recul. Mais il y a quelque chose de très touchant dans les cartes, c'est que ça instruit à cet égard et qu'en même temps, ça peut être très beau. avec les couleurs, les dessins. Et puis cela fait rêver. L'histoire et la géographie ont comme vocation peut-être d'abord de faire rêver.
Revenons au moment, Macron, à votre dernier livre en date, au président français. Puisque nous sommes à 11 novembre, journée de commémoration, vous écrivez, je crois que c'est à propos du Panthéon, il faudra être attentif à sa politique de commémoration. Pour quelle raison ?
Parce que commémorer pour un pouvoir, c'est toujours faire un acte politique. Il faut couper complètement le travail des historiens, le travail des universitaires, qui doit être absolument libre, et la volonté de choisir et de proposer à la nation, qui est libre de le refuser, de proposer les grandes lignes d'une mémoire, d'un souvenir. Et cela toujours a une portée politique.
Et je rappelle d'ailleurs que vous avez dirigé la mission du bicentenaire en 1989, de la Révolution. Donc c'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous avez d'ailleurs écrit sur le centenaire, des commémorations de la Première Guerre mondiale.
J'avais proposé à François Mitterrand une commémoration politique au sens le plus noble du terme. Il y avait d'un côté des interprétations de ce qui restait de la Révolution, et j'ai dit qu'on pourrait peut-être mettre l'accent sur des valeurs qui restaient fortes et vives. Et nous avions pris comme épigraphe un mot de Victor Hugo, « Il y a plus de terre promise que de terrain gagné ». Autrement dit, proposer à la nation d'aller chercher dans les événements du passé des sources d'inspiration pour améliorer le fonctionnement de la collectivité, la fraternité, un mieux-être ensemble, etc.
Donc commémorer, c'est faire de la politique par d'autres moyens, en quelque
sorte. Il revient à l'État, à condition qu'il ne se mêle pas de la recherche. Il revient à l'État de le proposer, de proposer des lignes. En 1889, pour le centenaire, la Troisième République, à peine établie dans ses meubles, en avait profité pour affirmer que, désormais, elle était installée et qu'elle pouvait conduire les destins du pays en conciliant les différentes valeurs qui avaient été portées par les révolutionnaires de 89.
Alors, est-ce que Emmanuel Macron est un fervent lecteur de Machiavel ? C'est aussi dans votre livre. Est-ce qu'il ira jusqu'à appliquer ce que dit Machiavel, avec tout ce que ça suppose dans le comportement, dans la conduite d'une politique ?
Oui, en scrutant dans ce livre, le moment Macron, ce qu'il peut nous dire sur l'histoire, j'ai en effet été sensible au fait qu'il avait travaillé sur Machiavel. Il y a un mémoire, malheureusement encore inédit, il serait intéressant de le retrouver, un mémoire de jeune philosophe sur Machiavel. Et naturellement, on peut avoir une vision superficielle, Machiavel, le mensonge, Renard, etc. Mais il est plus intéressant de noter que l'œuvre de Machiavel est plus une réflexion sur la manière de conserver et de bien gérer le pouvoir plutôt que sur la question de l'accès au pouvoir. Et je ne veux pas développer cela, mais ce type de dialogue entre certains personnages du passé et notre nouveau président m'a paru propre à éclairer son comportement et peut-être par conséquent l'histoire que nous allons connaître.
Ceux qui ont su le mieux agir en renard sont ceux qui ont le plus prospéré, écrit Machiavel.
Oui, alors le renard...
Nous verrons.
Mais on peut être renard au pouvoir, et pas seulement pour conquérir le pouvoir. Et puis il était entouré, les Médicis étaient entourés d'une petite brigata, d'une brigade de jeunes gens très jeune, effectivement, qui avait la conviction qu'il pouvait transformer le pays, leur ville. Et il y a aussi des points communs. Vous voyez qu'il y a constamment des va-et-vient, des échos, des reflets. Et c'est tellement bon et intéressant de les mettre en lumière.
Parce que vous revenez aussi dans ce livre, d'ailleurs, sur l'âge du capitaine, justement.
Encore un autre sujet de réflexion. On nous a un peu rebattu les oreilles en nous disant qu'il était tellement jeune, c'est extraordinaire. Donc il est intéressant de voir, d'une part, que beaucoup d'autres personnages depuis deux siècles ont été jeunes au pouvoir. Decazes, Émile Ollivier, Laurent Fabius, Monsieur Thiers et d'autres. Avec des succès d'ailleurs inégaux, et puis de rappeler également qu'il y a des vieillards magnifiques. Ce que faisait De Gaulle en 1965, quand il hésitait à se représenter, dans son journal intime, il avait fait la liste de toutes sortes de grands hommes qui avaient accompli, au-delà de 80 ans, des choses magnifiques. Verdi, avec Falstaff, Sophocle, le doge de Venise, Dandolo, qui avait battu les Turcs, etc., etc.
Parce que l'âge l'obsédait, effectivement. À propos de grand âge, d'ailleurs, là je reviens à la littérature, j'ai oublié de mentionner la disparition d'un grand écrivain cette semaine, qu'on avait invité aussi dans Idée pour parler de Camus, c'est Roger Grenier, qui avait écrit notamment la salle de rédaction. Et aussi.
Qui aimait beaucoup la radio.
Et qui aimait aussi beaucoup la radio, qui avait fait de la radio. Et l'historien que vous êtes, l'homme de radio, trouve aussi le temps d'écrire des pièces de théâtre. Jean-Noël Jeannonnet, j'ai sous les yeux la dernière qui s'intitule L'affaire Crochette.
Oui, j'évoquais tout à l'heure les usages divers qu'on avait bien le droit de faire de l'histoire. Et moi-même, j'ai pris plaisir à écrire deux pièces de théâtre inspirées de l'histoire, mais avec une grande liberté pour introduire dans une unité de temps, de lieu, d'introduire des réflexions qui permettent de dire autre chose que ce que l'on dirait dans un livre d'histoire. Et puis, confidentiellement, pour un historien, il y a un avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre des notes en bas de page.
Quel soulagement ! Et qui est ce monsieur Crochette ?
Alors, c'est un escroc. Dans la réalité, il s'était appelé Rochette, je l'interprète librement, qui, avant 1914, avait, suivant le principe de Madoff, vous savez, en faisant des affaires creuses, ça permet, on rétribue avec de gros dividendes une première affaire, et on va ainsi de suite jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que le roi est nu. Et je le saisis, mon Crochette, au moment où tout à coup, son système bascule. Et c'est précisément le moment où il s'est persuadé lui-même, en fait, qu'il pouvait devenir un bienfaiteur de l'humanité. C'est un plaisir que j'ai pris. Je n'ai pas fait encore de bande dessinée, mais vous voyez qu'on peut utiliser Clio pour des bonheurs multiples.
Je sens que la bande dessinée n'est pas loin, d'ailleurs.
Pourquoi pas ?
Merci Jean-Noël Jeannonnet. Je rappelle que votre ouvrage s'intitule, un de vos ouvrages le plus récent en date s'intitule Le Moment Macron. Il est publié au Seuil et je signale donc cette affaire Crochette, cette pièce de théâtre publiée aux éditions Porte-Parole. C'est ça. Merci Jean-Noël Jeannonnet. C'est toujours un plaisir de vous recevoir pour parler d'actualité et d'histoire.
Plaisir vraiment partagé, je vous l'assure.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Nous y parlerons d'une bien étrange rumeur qui a parcouru le Sénégal il y a 7 ans environ. Je ne vous en dis pas plus. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de deux anthropologues, Julien Bonhomme et Julien Bondas, qui l'ont étudié dans un livre qui sera au cœur de notre conversation demain dimanche à 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, bien sûr, un nouveau journal sur RFI.